que du point de vue de la matière organique, c'est-à-dire de. En fait, je vais vous parler de la matière organique qu'on observe dans la matière extraterrestre qui est soit collectée sur Terre, soit observée. Alors, en soi, comment dire, si on. Enfin, je vais difficilement pouvoir vous faire un cours de planéto qui répondrait à l'ensemble des choses qui ont été évoquées par François juste avant. Mais ce que je vais essayer de faire en un petit quart d'heure, c'est de vous résumer. Les quelques questions que cette matière organique pose, dans quelle problématique elle s'insère, qui n'est pas spécifiquement, il y a une problématique liée à la matière organique elle-même, mais elle-même nous permet en fait d'étudier quelque chose d'un petit peu plus large dont je vais vous parler, qui est en fait qui est lié aussi au contexte de formation du système solaire. Et puis je vais prendre un ou deux exemples de choses sur lesquelles on travaille en ce moment, sur en fait de l'analyse de matière organique et de matière organique spécifiquement qui provient de comètes, et là j'insisterai un petit peu plus particulièrement sur l'intérêt de ces objets-là, c'est-à-dire des comètes, ce qui aussi fera une introduction à l'exposé suivant, qui lui sera consacré vraiment aux analyses sur la comète Chury. Donc juste un rapide mot sur la matière organique. Donc le fait qu'il y ait de la matière organique dans la matière extraterrestre, c'est absolument pas quelque chose de nouveau, hein. À partir du moment où les gens ont commencé à étudier, déjà enfin, à la fin du 19e, dans l'astronomie populaire d'Arago, ils décrivent les roches qu'ils voient et ils identifient de façon très claire une matière charbonneuse dedans. Et ils identifient déjà, ils cataloguent les roches. Alors, ils mettent un certain temps à comprendre que ce sont des roches extraterrestres, mais une fois que c'est compris, ils voient qu'il y a une catégorie de roches qu'on appelle des chondrites carbonées, pour lesquelles nous employons le mot de primitif, même si ce mot est un mot qui est délicat à manipuler, parce qu'il a différentes significations, mais bon, appelons-les primitifs pour l'instant. Et donc ces roches-là, il y a une catégorie de ces roches qui contiennent du carbone, à peu près 5% en masse, c'est ce qu'on appelle des chondrites carbonées. Alors, une des plus connues, c'est pour nous, c'est Orgueil. Il y en a d'autres, allez, enfin bon, il y a un certain nombre de roches comme ça. À partir des années 1970 et puis les années 80, il y a eu toute une très très, comment dire, une très grande littérature sur l'étude de ces chondrites carbonées, plus spécifiquement sur la partie organique dans ces chondrites carbonées, en particulier sur cet objet de Murchison, donc il y a une chondrite carbonée. Et donc, je ne vais évidemment pas vous résumer là tous les travaux qui ont été faits là. Je veux juste vous dire où est cette matière organique pour que vous vous en fassiez une idée. Là, ici, pardon. Ici, c'est une coupe d'une chondrite. Alors, vous voyez que vous avez ici. Donc, déjà, la première chose, c'est que ce sont des objets qui sont complexes. Vous voyez, il y a une coexistence avec ici des objets ronds qui sont en fait des silicates qui ont fondu. Il y a une coexistence entre des minéraux qui sont tenus entre eux par ici. Donc ces phases-là rondes sont plutôt des phases de haute température, ici aussi des phases de haute température des minéraux. Et entre eux, il y a une espèce de colle. Eh bien, cette colle est constituée, dans une large mesure, de matière organique. Et quand on va analyser cette matière organique, en fait, on analyse cette colle qui tient ensemble ces minéraux primitifs. Donc l'idée qu'on peut s'en faire de façon très simpliste, c'est que ces minéraux ont été agrégés entre eux par cette colle qui contient cette matière organique qu'on peut qualifier de primitive, ou en tout cas qu'on qualifiera d'interplanétaire. Alors, cette matière organique, on la divise en deux parties. Il y a une partie qui est la matière organique soluble. Donc là, ce sera vraiment le talk suivant qui va être vraiment dédié à ça, ce qu'on appelle la SOM. Donc matière organique soluble. Alors c'est une matière organique qui contient énormément de différents composants, plutôt des composants assez petits, des acides carboxyliques. C'est là aussi, c'est dans cette matière organique dite soluble, hein, parce qu'on peut l'extraire facilement avec des solvants, et c'est là qu'on a observé des acides aminés. Donc je parlerai plutôt de celle-ci, qui est en fait l'essentiel de la matière organique qui tient la roche dont je vous parlais avant. Donc c'est ce qu'on. Alors par opposition à la matière organique soluble, elle est dite insoluble. Et donc c'est une matière organique, vous voyez, qui est organisée avec des petits groupements de 4, 5, 6 unités aromatiques tenues entre eux par des ponts comme ça. Et c'est une matière organique qui est extraordinairement résistante, qui est très, très solide. Et donc, lorsque vous analysez la matière organique extraterrestre, vous analysez en fait, si vous analysez son bulk, sa moyenne, vous analysez essentiellement cette structure. Alors, cette structure, elle est connue depuis un certain temps. Elle présente des différences d'une chondrite carbonée à l'autre, mais pas d'énormes différences. Et donc, la question qui se pose, une des questions centrales dans cette littérature depuis très longtemps, c'est quelle est l'origine de cette matière organique? Et là, je vais en dire un mot après sur la problématique de cette origine, d'où elle peut venir, et aussi, est-ce que une des questions qui est lancinante depuis assez longtemps, mais qui depuis une dizaine d'années est assez, il y a beaucoup de littérature là-dessus, c'est est-ce qu'on peut définir des précurseurs communs, voire un seul précurseur commun ? Alors, c'est une problématique qui peut par moment être discutable en ce sens que c'est vraiment une tentative de simplifier la chose à l'extrême, mais bon, en même temps, la question est pertinente. Alors, juste un mot à propos de l'origine de cette matière organique. Pour l'origine de cette matière organique, je vais revenir un instant sur le scénario de formation du système solaire qui a été légèrement évoqué par François avant. Donc, en gros, pour faire un système solaire, y a les grandes lignes, on les connaît. C'est en gros, les systèmes solaires se forment dans des régions denses de la galaxie, denses parce qu'il faut que la gravitation puisse prendre le dessus, c'est des régions denses et froides, donc c'est des nuages moléculaires que vous voyez là, donc ces nuages moléculaires durent quelques millions d'années, puis à un moment, il y a une instabilité et une partie du nuage s'effondre sur lui-même pour former une proto-étoile qui ensuite va s'entourer d'un disque d'accrétion, puis d'un disque, donc ce disque va ensuite se refermer, former un vrai disque, et ensuite après un disque de débris et de planètes. Et ici vous voyez les images, donc ça c'est plutôt cette phase-là. Et ici vous avez les images d'ALMA que vous avez sans doute déjà vues, qui est une des premières images vraiment où on voit un disque avec ici les sillons des planètes géantes qui commencent à se former au sein de ce disque. Bien. Une des questions fondamentales que pose la matière organique, c'est qu'on se pose pour la matière organique, c'est est-ce qu'elle prédate le système solaire, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'elle s'est formée, on observe de la matière organique dans le milieu interstellaire, on l'observe dans les nuages moléculaires, est-ce que c'est cette matière organique-là qui est héritée et que nous avons dans les roches primitives que nous voyons, ou alors est-ce qu'elle s'est formée plus tardivement au sein des disques ? Ou alors, est-ce qu'il y a un mélange des deux ? Voilà. Ça, c'est en gros la question fondamentale qui est posée par l'origine de la matière organique. Quelque part, je veux juste dire un mot là-dessus, c'est que c'est pour nous, bon, bien sûr, on aimerait bien connaître l'origine de la matière organique, elle est probablement même diverse, on hérite probablement des bouts de ça et des bouts de ça, de choses qui sont formées là et là. Il y a une chose qui, pour nous, du point de vue de l'étude de ces objets, l'essentiel de la communauté qui travaille sur ces objets, en fait, travaille sur ces quelques millions d'années qui sépare le milieu interstellaire de la formation du Soleil. La matière, dans les objets, quand vous étudiez les objets extraterrestres, il y a dedans des phases minérales qui prédatent du système solaire, qui sont des grains présolaires qui ont condensé dans des générations d'étoiles avant le Soleil. Vous avez d'autres objets, si vous étudiez une roche martienne, qui vous renseigne sur la planétologie, sur le système solaire lui-même. La matière organique, elle a cette caractéristique, en fait, de nous permettre d'étudier la transition entre le milieu interstellaire et la phase du disque. C'est-à-dire qu'elle est vraiment située à la frontière entre les deux. Et quand on se pose la question de la frontière du système solaire, ce qui est une question qui est conceptuelle mais extrêmement importante pour nous, de savoir à quel moment on est dans le milieu interstellaire et quels sont les processus interstellaires et quels sont les processus du système solaire, la matière organique elle-même permet d'essayer d'avoir en tout cas un fil directeur pour cette question. Bien. Alors, juste un mot là-dessus, quand on veut étudier cette matière, il faut trouver des échantillons qui n'ont pas été trop modifiés depuis la formation du système solaire, et ça, il n'y a pas tellement le choix, c'est-à-dire comme ce que François vous a expliqué avant, si vous étudiez des planètes, c'est foutu parce que les planètes ont été complètement modifiées, elles se sont différenciées, et donc il faut aller étudier des petits corps. Et donc ça, c'est pour ça qu'il y a un des enjeux majeurs des missions spatiales actuelles et puis futures, où vous allez essayer d'échantillonner ce que François vous a montré avant, soit des astéroïdes ici qui sont avant la ligne des glaces ou sur la ligne des glaces, donc plus ou moins secs ou plus ou légèrement humides, enfin avec un petit peu d'eau, et puis, ou alors sinon ici, des objets comme les comètes, donc qui sont eux aussi des objets des petits corps qui sont non différenciés, mais qui eux sont beaucoup plus riches en eau. Avec une des questions fondamentales qui est de savoir est-ce que les astéroïdes et les comètes sont semblables sur certains points ou alors très différents. Donc ça, c'est l'enjeu de toutes ces missions spatiales. Et l'exposé suivant sera évidemment consacré à la mission dont vous avez tous entendu parler, qui est Rosetta. Voilà. Alors, il y a une autre solution qui est suivie par pas mal d'équipes, qui est d'essayer d'étudier la matière extraterrestre qui tombe actuellement sur Terre. Donc, qui tombe actuellement sur Terre, l'essentiel sous forme de poussière, à peu près 30 000 tonnes par an, des poussières extraterrestres. C'est ce que vous voyez quand vous voyez des étoiles filantes, et c'est tout à fait possible de les collecter sur Terre, c'est connu depuis assez longtemps. La chose qui est assez nouvelle pour nous, là, c'est qu'on a développé des programmes de collecte de ces poussières, en particulier ici, au centre du continent antarctique, à la station Concordia. Donc ça, c'est grâce au, en fait, à l'Institut Polaire qui permet de, d'avoir d'effectuer ce genre de recherche là-bas. Alors bon, en gros, on prend de la neige, on la fond, on la filtre. C'est simple à dire, c'est un petit peu plus difficile à faire, mais en gros, on obtient différents types de poussières. Donc là, je vais me concentrer sur les poussières qui ont les moins fondues à l'entrée atmosphérique, qui sont celles-ci qu'on appelle des grains friables. Alors, on a étudié ces grains friables pendant longtemps et ce qui arrive assez rarement, on a eu vraiment pour le coup une surprise, c'est-à-dire on est tombé sur des grains qui n'avaient jamais, qu'on ne connaissait pas, on n'avait jamais vu ça avant. C'est des grains qui sont constitués, donc les premiers qu'on a trouvés étaient à 50% de matière organique, et là on a des grains qui sont à 80-90% de matière organique. C'est pratiquement des grains de matière organique pure avec des tout petits cristaux dedans. Donc ça c'est ce qu'on appelle des micrométéorites ultracarbonées. Alors on a mis assez longtemps à les caractériser, mais finalement on s'est rendu compte que donc, ces grains sont particuliers, ils ressemblent, la seule chose à laquelle ils ressemblent, c'est les grains qui avaient été observés par les missions Giotto et Vega quand elles ont observé la comète de Halley, qui effectivement avaient observé des grains qui étaient très riches en matière, en éléments légers, carbone, hydrogène, azote. Donc nos grains sont très probablement d'origine cométaire. Alors, juste un mot sur l'analyse de ces grains, ça fait pas mal d'années qu'on les analyse, donc en particulier, ce sont des analyses très très fines, hein, puisque là on va aller regarder des choses à l'échelle du micron, et là je vous montre des résultats récents obtenus par Emmanuel Dartois auprès du synchrotron Soleil, où il a pu faire des spectres infrarouges sur ces grains écrasés, où on voit bien les différences à l'intérieur des grains ici, mais le point le plus important qu'il a mis en évidence, c'est que quand on analyse le spectre infrarouge de ces grains, la matière organique qu'on voit n'est pas tout à fait assez différente de celle qu'on voit dans les météorites. Et essentiellement, une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est très très riche en azote. Donc ça va peut-être intéresser l'interlocuteur, enfin la question d'avant. On a une matière organique qui est 3 fois, 5 fois supérieure en azote. On a mis assez longtemps avant de trouver une explication à ça. Et l'explication la plus raisonnable qu'on a trouvée, c'est qu'en fait, donc il faut qu'on trouve un processus pour inclure de l'azote dans de la matière organique. Et ça, ce n'est pas évident du point de vue astrophysique, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais en gros, il y a un endroit pour ça, qui est en plus complètement compatible avec une origine cométaire, c'est que si vous regardez des objets transneptuniens, si vous allez donc dans des zones très froides, et plus vous allez dans des zones froides, vous allez passer, en fait, vous passez d'abord la ligne des glaces de l'eau, puis vous passez la ligne des glaces de l'azote. Et quand vous passez la ligne des glaces de l'azote, vous avez en fait, vous condensez l'azote sous forme solide. Donc vous avez à la surface des objets transneptuniens, pour ceux comme par exemple Pluton, vous avez des couches d'azote solide. Et si vous irradiez ces couches, ce qu'on avait proposé, c'était d'irradier ces couches avec le rayonnement cosmique galactique, donc un rayonnement ionique, vous pouvez synthétiser des précurseurs de matière organique. Et c'est ce qui a été montré donc, très récemment à une expérience à Ganil, par un étudiant en thèse au CIMAP, où en irradiant des glaces, donc un mélange de CH4 et de N2, il a pu montrer qu'il obtenait des précurseurs dont les spectres infrarouges étaient très semblables aux spectres que nous observions dans la matière organique des micrométéorites ultracarbonées. Alors ça, c'était formidable parce qu'en plus, il y a eu les résultats de New Horizon dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui montrent justement, qui analyse ici, là, vous voyez, l'azote et le CH4 à la surface de Pluton. Donc en gros, ce que nous pensons, c'est qu'il y a une partie de cette matière organique qui provient de la surface d'objets transneptuniens et que cette matière organique a certaines caractéristiques particulières. Alors juste un mot là-dessus, on peut aller plus loin, et là à nouveau, il y a des développements instrumentaux en cours, en spectrométrie de masse, en particulier ici à l'Institut Curie, en collaboration avec Georges Lezian, qui est l'inventeur du NanoSIMS, où il y a aussi cet instrument au muséum, qui est un des instruments les plus utilisés dans notre communauté pour analyser ce type d'objet, où on peut maintenant aller justement regarder les isotopes, c'est-à-dire le deutérium ou le rapport azote-15 sur azote-14. Alors comme François vous l'a décrit avant, pour nous les isotopes c'est crucial parce que, en gros, la chimie, vous pouvez y toucher de plein de façons. Par contre, toucher aux isotopes, ça coûte beaucoup plus d'énergie et la signature isotopique est beaucoup plus robuste. Donc, ça nous renseigne beaucoup mieux sur la matière. Et ce que vous voyez, ça, c'est une des images de micrométéorites ultracarbonées qu'on a obtenues récemment. Vous voyez, vous avez toute une diversité ici. Vous avez des zones qui sont très riches en deutérium. Donc, c'est de la matière organique. On la regarde dans des molécules polyatomiques, là. Et on voit aussi cette même carte faite en azote. Et donc, on peut comparer les deux et on voit qu'on a différentes composantes de matière organique et toute notre problématique consiste maintenant à essayer de savoir est-ce qu'on peut faire la différence entre ces différentes composantes de matière organique et est-ce qu'on peut isoler celles qui proviendraient de différentes sources. Alors, je vous le flash juste très rapidement. Il y a une chose, en fait, une des pistes qu'on a, parce que les isotopes, c'est une chose, mais en fait, ça très vite, ça s'arrête au sens où il faut que, pour raisonner, il nous faut plus d'informations. Et une des informations cruciales avec cette matière organique, c'est que nous sommes capables, dans ces météorites, parce que la matière organique est en fait tellement abondante qu'on n'a pas besoin de pré-traitement, on l'analyse directement, on est capable d'aller regarder directement les phases minérales qui sont incluses dans cette matière organique. Or, ces phases minérales sont très différentes les unes des autres. Et en particulier, pour le faire de façon simple, vous avez certes, donc là ici vous avez de la matière organique, donc là on est à l'échelle du thème, hein, de la microscopie à transmission, on regarde des objets qui ont quelques centaines de nanomètres. Vous avez ici des objets qui sont amorphes, qui sont typiques des solides du milieu interstellaire, c'est-à-dire bien avant la formation du nuage moléculaire, qui ont été incorporés dans le nuage moléculaire, mais qui sont des phases interstellaires. Et vous avez ici, par contre, des objets qui sont cristallins, et qui, eux, ont été réchauffés, et qui sont des objets du disque protoplanétaire. Et donc, en étudiant l'association entre la matière organique et les phases minérales qui sont dedans, à l'échelle submicronique, on est capable, en fait, de commencer à essayer de faire la différence entre ces différentes composantes. Donc, un dernier point, et là, c'est juste un transparent de perspective. C'est en gros, là maintenant, notre but, c'est essayer d'analyser beaucoup plus finement la matière organique qui entoure ces minéraux pour essayer de voir quelle est sa relation avec ces différents minéraux. Et là, il y a deux techniques de pointe pour ce genre de choses. Il y a une technique qui s'appelle la technique ZANES, qui est développée au synchrotron Soleil, où on a commencé à avoir des résultats où on voit que la matière organique lisse que vous voyez là n'a pas la même signature que la matière organique qui est autour des minéraux. Donc ça va plutôt dans le bon sens. On est en train d'isoler différents types de matière organique. Et là, il y a une technique vraiment assez révolutionnaire qui s'appelle le nano-IR. Je vous en dis juste un mot parce que peut-être certains d'entre vous seront intéressés. Où on est vraiment, enfin là c'est Alexandre Dazy, donc c'est des gens d'Orsay qui développent ça, où ils sont capables de commencer à aller regarder des caractéristiques infrarouges de matière organique à l'échelle de quelques centaines de nanomètres. Donc ça, il faut juste voir que c'est très en dessous de la limite de diffraction de l'infrarouge. Et cette technique permet en fait d'imager ces micrométéorites, et donc on va essayer de séparer les différentes composantes de matière organique avec ça. Donc pour conclure, je vous dirais juste ça, donc sur la question de l'origine de la matière organique, en gros, schématiquement, on envisage trois possibilités. Une possibilité qui a été pendant longtemps la possibilité favorisée, c'est que la matière organique... Ah pardon, vous m'entendez ? La matière organique est en fait héritée une partie du milieu interstellaire, et en particulier ici dans les phases denses, il y a beaucoup de molécules organiques qui sont observées. Donc il y a une partie de cette matière organique qui peut être héritée de cette phase-là. Il y a une autre partie qui sera héritée, qui peut être héritée des zones froides du disque protoplanétaire que vous voyez ici, où là par contre il y a par exemple des minéraux cristallins. Et puis, il y a une troisième partie dont je vous ai parlé au cours de cet exposé, qui est, il est tout à fait possible de faire une matière organique beaucoup plus tardivement, ici, à la surface de corps glacés, par irradiation, soit principalement par le rayonnement cosmique galactique. Voilà, je vais m'arrêter là sur l'origine de la matière.
Merci. On a le temps pour deux questions rapides. Les troupes fatiguent peut-être un peu. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est on va embrayer sur le deuxième exposé. On fera une série peut-être avec les deux parce qu'il y a des rapprochements. Et en plus, vous êtes pas